Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala hila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul aqadata min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir d'essayer d'approfondir un petit peu notre connaissance sur al-yawm al-akhir, l'au-delà, et une étape intermédiaire entre la vie de ce dunya et l'au-delà, et c'est al-maut. Et pour étudier ce chapitre, cette thématique est extrêmement importante. Nous nous basons sur le fameux livre de Jalaluddin al-Suyuti, Sharh al-Sudur fi Ahwal al-Mawta wal-Qubur, ouvrage qui a été donc traduit en français, La mort et la vie tombale. Le dernier point qu'on avait vu il y a deux semaines, c'était l'opinion que le croyant doit avoir à propos de son Seigneur. Et on avait dit qu'au moment de mourir, il était important de rappeler au défunt les bonnes actions qu'elle a accomplies dans ce dunya afin qu'il quitte ce monde avec husnul dhanni billah, une opinion favorable, positive à propos de son Seigneur. Et ce n'est pas là quelque chose d'inné, ça ne découle pas directement de la présence de foi, de le cœur. Il faut un iman qui travaille, qui a des bases solides. Il faut approfondir sa connaissance iman billah, iman bil asma wa sifat. Et à partir de ce moment, le mu'min, le croyant, peut avoir cette opinion, cette bonne opinion à propos d'Allah Azza wa Jal, et cela nous sera profitable dans la recherche de la motivation, le targhib, pour l'accomplissement des bonnes actions. Cela nous sera utile pour se freiner et contrôler son nafs face aux tentations, et bien sûr cela sera utile dans les moments d'épreuve, de ibtila, où le croyant va comprendre et réaliser que tout vient d'Allah Azza wa Jal. On avait rédigé un petit, on va dire, quelques lignes avant-hier ou hier sur les réseaux sociaux concernant les doigts, et principalement les doigts qui ne sont pas exaucés, acceptés. Alors, avant d'entrer dans le sujet, il est bon de peut-être d'en parler un instant, parce que cela découle également la compréhension de la notion même de doigt, d'invocation. Ben, pour qu'on comprenne, il est nécessaire justement de connaître Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. Et cette connaissance nous permet d'avoir un husnul dhann billah, une opinion positive à propos de notre Seigneur, et nous arrivons à comprendre comment le doua fonctionne. Dans peut-être notre logique qui est parfois un peu limitée, on se dit j'ai besoin de quelque chose ou j'ai peur de quelque chose, et donc je lève mes mains et j'invoque mon Seigneur, et on est persuadé que mashallah on a fait une action qui est la meilleure certainement de cette situation. Bien sûr que oui. Le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle dans un hadith que ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est le ibada, et on pourrait traduire par excellence. Pourquoi par excellence? Les savants disent que lorsque le mu'min invoque son Seigneur, comme on a eu l'occasion de le rappeler il y a quelque temps, il reconnaît sa position de créature et il lève ses mains et oriente son cœur vers le Créateur, celui qui coordonne chaque chose, qui prédestine, qui crée des situations, leur dénouement, et qui connaît le passé, le présent et le futur, et qui est « ala kulli shay'in qadir », qui est capable de tout, et il suffit qu'il dise « kun fayakun ». Donc bien sûr, le doua, c'est vraiment la manifestation de présence, de foi, de waya kanasta'in, que nous cherchons refuge auprès d'Allah. Mais des fois, on se dit que je demande, donc j'attends qu'Allah m'écoute, m'exauce, m'accepte. Le mot m'écoute, c'était en plus. J'attends qu'Allah m'exauce, exauce mon doua et m'accepte, accepte ma demande. Et lorsque des fois, on voit que la demande, l'invocation ne passe pas. Des fois, l'invocation, elle est formulée dans des moments importants. On appelle ça sharaful zaman, des moments importants en rapport avec le temps. Je me réveille pour le qiyamul layl, des nétiens de la nuit, ou alors je fais doua dans la dernière décade du mois de Ramadan, et ainsi de suite. Et je fais une invocation avec, mashallah, avec conviction, avec sincérité, de façon intense. Ou alors, je fais doua en profitant de ce qu'on appelle Sharaful Makan, des endroits saints, Makka par excellence, la ville de Madina Munawwara. Et là aussi, des fois, je me rends compte, ou au Hajj, je me rends compte que mes invocations ne passent pas, ne sont pas acceptées.
Dans ce genre de situation, il ne faut surtout pas remettre en question la notion d'acceptation. On peut se remettre en question, est-ce que j'étais sincère dans mes doigts? Est-ce que je suis suffisamment concentré? Est-ce qu'il y a la dévotion? Est-ce que j'ai la conviction que c'est Allah qui détient les clés, hein, la solution de ce problème? Est-ce que mon doigt, c'est juste une formule que je suis en train de lire comme un poème ou comme un doigt que je récite et que, ou alors je le ressens? J'ai cette conviction et cette force de foi qui me donne cette persuasion que Allah m'entend et est capable de exaucer. Donc on peut se remettre en question, hein, la qualité de nos doigts. On peut se remettre en question également concernant, c'est une parenthèse, hein, c'est pas le thème du jour, concernant notre subsistance, est-ce qu'elle est licite ou illicite, sachant que la nourriture haram, les revenus de façon plus générale illicite, ben ça peut être un obstacle pour l'acceptation des doigts, et ainsi de suite. Je peux me remettre en question, mais en aucun cas, je peux remettre en question la qualité. Je me remets en question, je peux me remettre en question la qualité de mes doigts, mais en aucun cas la notion d'écoute de mon Seigneur et la notion d'acceptation, car de le Coran, Allah Azza wa Jal révèle « Wa idha sa'alaka ibadi anni » Abdul Malik, la suite. Oui. « Fa'inni qarib » Et là aussi, ce verset, on a eu l'occasion de l'expliquer à plusieurs reprises. C'est lorsque le serviteur demande à propos d'Allah, Allah, Rabbul Izzah, demande au prophète, alayhi salat wa salam, de dire aux gens que « Fa'inni qarib » que je suis proche. Et les Mufassirin disent que l'enchaînement entre la question et la réponse, elle est, ben, il y a un enchaînement. Et « Fa'inni qarib » c'est une phrase nominale qui prouve que c'est quelque chose qui est extrêmement rapide et qu'Allah est proche. Il suffit qu'on l'invoque pour qu'Allah Rabbul Izzah soit proche de nous. Donc ça, je ne dois pas remettre en question. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Allah n'exauce pas un doua? N'oublions jamais qu'Allah Rabbul Izzah est alim. C'est celui qui a la connaissance infinie. C'est celui qui est hakim, celui qui est sage. C'est celui qui est latif, c'est celui qui est bienveillant. Et qui donc prédestine pour chaque être humain ce qui lui sera bon et profitable. Et des fois, une chose nous est détestable de ce monde. On aurait aimé que ce soit différent. Mais Allah nous le prédestine parce qu'il y a un bien. Il y a une tarbiya, une éducation. Il y a une thèse qui a une purification. Purification de quoi, Junaid, qui nous rejoint? Une purification peut-être de mes péchés. Peut-être une éducation par rapport à, je sais pas moi, j'ai peut-être trop confiance en mes acquis, en mon pouvoir d'achat, en mes études, en mon intelligence, en, je sais pas, mon influence sur la société. Et Allah Rabbul Izzah crée des situations qui nous permet d'avoir un peu de, qui nous remet en question. On doute un petit peu, on comprend que nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensions, mais qu'en finalité, nous sommes vraiment, nous dépendons totalement d'Allah Azza wa Jal. Donc, ikhwan ya khawati fillah, pour qu'on réalise la portée du doua et qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne, il faut avoir un husnul dhanni billah, l'opinion positive à propos d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, si je fais le même doua, je demande la santé pour moi ou pour mes enfants, ou si c'est un jeune qui est célibataire, il demande une épouse vertueuse, ou si c'est un couple qui n'ont pas encore d'enfants, ils n'arrêtent pas de demander, ils vont à Hajj tous les ans, ils vont tous les Umrah à Mecca, ils vont tous les Ramadan à Mecca, à Medina, mashallah, ils font tout ce qu'ils peuvent pour invoquer Allah dans les meilleurs endroits. Quand Allah décide de ne pas t'ouvrir une porte, c'est qu'Allah Azza wa Jal a décidé que cette porte, si elle reste fermée, elle est peut-être meilleure pour toi. Après, ça dépend, c'est au cas par cas. Ou alors, cette porte fermée, ça constituera ton ibtila de ce dunya. C'est peut-être ton épreuve du dunya. Et c'est peut-être ton visa pour le Jannah. C'est peut-être par cette grande épreuve qu'Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné le Jannah pour toi et ton épouse, et que tu la retrouves dans le paradis, lavée de tous les péchés, parce qu'à chaque instant, si je garde l'exemple de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfants, qu'à chaque instant, ils vont voir une famille avec des enfants, ils vont entendre des voisins avec des enfants qui chantent, qui apportent de la vie, comme on entendait Abdul Malik en train de crier avec son petit, quand le duo a commencé, c'est de la vie, mashallah. Et peut-être que cette personne ressent une certaine frustration, une certaine tristesse. Abshir bil huzni. C'est une bonne nouvelle. Cette tristesse, cette frustration, quoique le mot frustration, j'aime pas trop, cette tristesse, cette détresse, cette amertume que ce jeune papa ou cette maman peut ressentir lorsqu'il voit d'autres familles avec des enfants, ben voilà donc ton épreuve de ce dunya. Et à chaque fois que ton cœur va saigner et que tu ressentiras ce que tu ressens, ben c'est kafaratun lidhunub, c'est l'expiation des fautes. Ce sont des bonnes œuvres rajoutées et c'est raf'un lidhunub. C'est un degré de le Jannah. Pareil pour celui qui a un problème de santé, et ainsi de suite. Il a réalisé tout ça, on peut donner un sens à ces situations difficiles de la vie avec Husnudhan Nibillah, la bonne opinion de notre Seigneur. Donc, Ikhwan et Ikhwati Fillah, nous reprenons le cours de le fil, on va dire, des différents chapitres de ce livre, et j'encourage vivement ceux qui peuvent l'acheter, La mort et la vie tombale de Suyuti, ceux qui habitent à Lyon, mashallah, il paraît que les meilleurs maktabas, c'est à Lyon, en métropole, de façon générale, vous pouvez l'avoir facilement, à La Réunion, c'est possible également, et nous sommes au chapitre 9, Nadhirul Maut, on va dire, tout ce qui peut annoncer la mort. Alors, comment est-ce qu'une personne meurt? Une personne peut mourir de vieillesse à cause de la maladie, de suite à un accident ou alors un problème de santé qui dégénère, ainsi de suite. Tout comme une personne peut mourir, on appelle ça faj'atan, maut al-faj'a, une mort subite, sans qu'il y ait d'indices ou de signes précurseurs ou de symptômes ou autre chose, aucun problème cardiaque, la tension, le bilan sanguin est parfait, et c'est là un des petits signes du Qiyama, sans ouvrir cette parenthèse, mais parmi les petits signes du Qiyama, le Prophète m'a annoncé qu'il viendra une époque où les gens vont mourir subitement. On appelle ça maut ou le fajr. Ça a été commenté par certains savants, par tous les problèmes cardiovasculaires, un infarctus ou voilà, ce genre de problème, qui fait qu'une personne qui est en parfaite santé, tout d'un coup, meurt. Parce qu'il faut comprendre que à l'époque, quand les gens mouraient, c'était soit de maladie, soit ils mouraient par rapport à des situations de conflits armés, ainsi de suite. Donc, c'était quelque chose qui était plus ou moins prévisible, ou qu'on pouvait attendre que ça allait venir. Mais voilà, un des petits signes de Qiyama, c'est le fait que les gens parfois meurent sans qu'il y ait de symptômes ou de signes annonciateurs. Maintenant, dans la majeure partie des cas, Imam al-Qurtubi, rahimahullah, et je pense que c'est dans At-Tadhkira, qu'il nous rapporte, Tadhkira qui est également traduit en français, c'est un bon ouvrage, mais il y a beaucoup de Israiliyat, il y a beaucoup de, on va dire, de nouvelles qui viennent des livres anciens, et parfois il faut faire le tri. Alors, Al-Qurtubi raconte donc que lui-même, il a lu ce texte qui stipule que certains prophètes avaient conversé avec l'ange de la mort et avaient demandé à l'ange de la mort, n'y a-t-il pas de signe qui permettrait aux croyants de comprendre que ta venue est proche. Liyakun an-nas ala hadarin minka, afin que les gens soient prêts. Alors maintenant, la grande question, est-ce qu'on peut être prêt pour la mort réellement? Alors, la bonne question, c'est de savoir, est-ce que à un moment, on peut se dire vraiment que je suis prêt à mourir? C'est quand même prétentieux, je vais dire, ou alors c'est vraiment une personne qui a des qualités exceptionnelles, que celui qui dit que moi je suis prêt à n'importe quel instant. C'est que vraiment, tu es persuadé que, mashallah, en termes de bonnes actions, il y a le quota, il y a une grande quantité, et que les péchés, mashallah, tu as demandé taouba, et que tu n'as fait de tort ou tu ne dois rien à personne. Mais, mashallah, c'est vraiment c'est une qualité des salihin, des pieux, que d'être toujours prêt à rencontrer Allah Azza wa Jal. Et l'ange de la mort, justement, dit que, avant ma venue, il peut y avoir des signes comme al-i'lal ou al-amrad, les problèmes de santé. C'est-à-dire que les problèmes de santé sont parfois annonciateurs de la mort. Ça peut être une épreuve passagère, mais ça peut être quelque chose qui s'installe et qui fait réaliser à cette personne que, ça fait que la personne va ralentir son rythme de vie et peut-être se remettre un peu en question, se recentrer un peu sur ses objectifs et peut-être avoir une prise de conscience par l'intermédiaire de l'épreuve que sa vie est courte et qu'il y a une finalité, c'est le retour auprès d'Allah et qu'il ne sert strictement à rien de foncer dans les plaisirs ou même dans tout ce qui a trait à notre profession, au dunya de façon générale, ne pas se laisser aspirer totalement par le dunya, mais se remettre en question. La maladie, parfois, c'est un rappel. Il dit également, wal-haram, la vieillesse, hein, quand on voit sa barbe blanchir ou ses cheveux qui deviennent blancs, et ainsi de suite, ce sont des signes annonciateurs. Dans certains textes, on a vu des conseils de savants, ce ne sont pas des hadiths, et ils disent qu'à 40 ans, un musulman, un croyant éclairé à 40 ans ne se déplace jamais sans son linceul, son kafan. Waouh! C'est-à-dire que quand tu voyages, à partir de 40 ans, quand tu voyages, tu dois toujours avoir dans ta valise deux pièces de tissu. C'est-à-dire que le mu'min, au-delà de 40 ans, se doit d'être, subhanallah, d'être toujours prêt. C'est quand même, c'est une approche, c'est une conception de la vie qui était celle des pieux prédécesseurs, qui nous permet de réaliser que réellement, quand on parle de rafla, d'insouciance tout le temps, ben on se dit que je suis dans la rafla, je suis dans l'insouciance. L'insouciance, c'est pas uniquement se laisser aller à tous les harams et ne pas prier, non. Là, on est dans le summum du fisq, des péchés qui sont ancrés dans le cœur, péchés endurcis. Mais la rafla, parfois, c'est le simple fait d'apprécier la vie et d'enchaîner les plaisirs, même si on accomplit de bonnes actions, mais en oubliant la mort. Le simple fait d'oublier la mort, une journée qui passe sans qu'on pense à la mort, c'est une journée où il y a une partie de rafla. Et il continue dans le texte, « Watarir al-sam'i wal-basari », le fait que arrivé à un certain âge, la personne voit un peu moins bien ou a du mal à entendre et ainsi de suite. Il dit que tout ça, ce sont des signes annonciateurs qui fait partie, on va dire, de la nature humaine qui permet à l'homme de réaliser, de comprendre que c'est peut-être la fin du cycle dans ce dunya. Maintenant, la leçon qu'on retient, c'est que face à la maladie et ainsi de suite, il y a deux extrêmes. Il y a celui qui développe plein de symptômes hypochondriaques, le moindre problème de santé, voilà, on envisage le pire et on pense que c'est fini, on va tous mourir, d'accord. Et puis on se rend compte qu'après le Doliprane, ça va mieux, on n'est tout simplement pas mort. Ou alors, il y a la personne qui est malade, qui se soigne et qui retiendra de la maladie uniquement que c'était un virus, une bactérie, et que j'ai vu un médecin qui m'a prescrit un antibiotique ou autre chose, et que ça va mieux. Sans se rappeler que c'était peut-être une épreuve, ou un rappel, ou un signe annonciateur de la mort. Le mu'min doit toujours avoir le cœur présent, le cœur éveillé, et la mort doit faire partie de nos pensées au quotidien. Alors justement, on va voir le point numéro 10, c'est une petite introduction, ça, ce chapitre 9. Parfois il y a des grands chapitres, parfois des tout petits chapitres. Le chapitre 10 est très intéressant, et c'est, on va dire, c'est la concrétisation du verset Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. As-Suyuti rahimahullah a intitulé ce chapitre Alamatu khatimatil khair, les signes d'une mort, on va dire d'une bonne mort, une mort vertueuse, on pourrait dire. Il cite le hadith de Tirmidhi rahimahullah, hadith de Anas ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت حديث الترمذي. Dans ce texte, et je pense qu'on a un deuxième, on va enchaîner avec les moutons. On a cette fois-ci un hadith de Imam Ahmed, de lequel le prophète عليه الصلاة والسلام il explique que avant la mort, يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه. Que avant de mourir, enfin, il y a un troisième texte et puis on va commenter. Là, on a un hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه قبل موته بعام ملكا. Ça, ce texte est un peu long, on va le traduire. Alors, ces trois hadiths vont dans le même sens. C'est que avant de mourir, et la personne pour qui Allah Azza wa Jal veut du bien, Allah Rabbul Izzah guide les pas de cette personne et lui donne la possibilité, dans les derniers moments de sa vie, d'accomplir un grand nombre de bonnes actions. Et un des trois textes que nous avons cités, le premier, le prophète a dit que yasta'amilu, Allah Rabbul Izzah va l'utiliser. Les sahaba ont dit au prophète d'Allah, l'utiliser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah va l'utiliser dans son chemin. Yuwaffiquhu, Allah va l'accepter, va lui donner le fameux tawfiq, c'est le mot qui nous fait rêver. Très souvent, on dit qu'Allah donne un tawfiq de comprendre, de mettre en pratique. Mais c'est le mot clé, tawfiq, c'est quand Allah t'a choisi, quand Allah t'a accepté, quand Allah a décidé de guider tes pas, quand Allah veut du bien pour toi, quand Allah a décidé d'illuminer ton chemin pour te permettre d'avancer vers lui. C'est cette personne qui vit dans une spirale de dunya interminable entre son travail, sa vie de famille, ses loisirs, ses occupations et ainsi de suite, ses engagements divers, et qu'il n'y a pas une place pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, mais qu'à un moment, Allah Rabbul Izza a de la pitié, de la clémence, de la miséricorde pour cette personne, et Allah illumine son cœur. Allah met quelque chose dans son cœur. Ça peut être cette lumière, elle peut venir de différentes façons. Ça peut être un jour, la personne entend un discours, ou alors en lisant le Coran durant le mois béni, la personne est interpellée par un verset et se décide de lire la traduction. C'est-à-dire, il y a plein de asbab de hidayah, il y a plein de moyens de guider. Ça peut être une personne qui vient te voir et qui te fait la da'wah, Allahu ta'ala a'lam, et qu'à un moment donné, tu décides de mettre sur pause toute cette spirale et cet enchaînement et ce rythme de dunya et que tu t'intéresses au akhira et tu recherches, ça veut dire quoi, l'agrément divin, l'acceptation d'Allah et ainsi de suite, et que la personne commence bi-idhnillah à faire des efforts. Ça, c'est les bases du tawfiq. Et sans tawfiq min Allah, ikhwan et khawati fillah, ben on ne peut strictement rien faire. Alors maintenant, la notion de tawfiq, le fait qu'Allah t'accepte, ça ne remet pas en cause le destin, ça ne remet pas en cause, pardon, le libre arbitre. Hein. Allah t'accepte parce qu'Allah Rabbul Izzah voit qu'il y a du bien en toi. Allah veut du bien pour toi parce qu'il y a quelque chose de correct. Il se peut que Allah accepte toute ta vie, son sa'i, inna sa'yakum lashatta, ton passage de ce dunya, par rapport à une bonne action qui a été exceptionnelle et extrêmement riche en sincérité. Parfois, il suffit une fois dans sa vie d'être extrêmement sincère qu'on accomplit une bonne action et de faire un gros sacrifice. Sincérité et sacrifice, ikhwan et akhawat fillah, ce sont, subhanallah, les bases du succès dans notre vie, dans ce dunya, pour être accepté par Allah. Être mukhlis, sincère dans ce qu'on accomplit, et faire preuve de mujahada, faire des sacrifices pour la recherche de l'agrément divin. Et l'exemple, le hadith le plus clair à ce sujet, c'est bien sûr l'histoire de la grotte. Hein. On avait évoqué ça il y a 2 semaines, ces personnes qui étaient coincées dans une grotte, et ils se sont rappelés de la fameuse de ce qu'on appelle at-tawassul bil a'mal as-salihah, le fait d'invoquer Allah et de mettre en avant une action que tu estimes être la meilleure de ta vie, la plus sincère. Et chaque personne avait invoqué Allah et mis en avant une bonne action, et Allah Rabbul Izza a accordé son aide progressivement. Et c'était là un signe d'acceptation que la fameuse bonne action qu'ils ont choisie parmi leur vie, hein, de bonnes œuvres, c'était vraiment une action remplie de ikhlas, de sincérité, et de mujahada, de sacrifice. Ainsi, pareil, nous devons essayer, hein, de nous dépasser, hein, parfois d'essayer de rechercher une action. Il y avait un terme en arabe, le terme ne me revient pas, il est stipulé que chaque croyant doit essayer d'avoir un secret avec son Seigneur. C'est-à-dire d'avoir une relation de ibadah secrète qui n'est connue que d'Allah Azza wa Jal. Ça peut être cette personne qui se réveille dans la nuit à 1h30, 2h du matin et qui va prier alors que, subhanallah, tout le monde dort. Sa femme dort, ses enfants dorment, et personne ne sait que la personne, chaque nuit, passe 1h, 1h30 à prier, à invoquer Allah Azza wa Jal. Ça peut être cette personne qui, mashallah, tous les mois, fait un don pour une association ou pour venir en aide à des gens qui sont en difficulté, mais avec une sincérité exceptionnelle. C'est vraiment un lien secret entre lui et Allah Azza wa Jal. C'est ce genre de réaction de foi basé sur la sincérité et l'esprit de sacrifice que, ikhwan fillah, nous nous devons de développer avec espoir que c'est peut-être cette bonne action qui va changer notre vie et qui va valider notre passage de ce dunya. Ainsi donc, dans le premier texte, le prophète alayhi salatu wassalam explique qu'avant de mourir, yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah va guider les pas de cette personne pour qu'il accomplisse de bonnes actions au quotidien jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, et les gens diront, c'est pas le but recherché, hein, les gens diront que subhanallah, cette personne est morte alors qu'elle était, mashallah, elle était très assidue aux prières et dans les bonnes actions et ainsi de suite. Et c'est vraiment ce que nous devons rechercher. Il faut faire en sorte que notre vie soit rythmée autour des prières, autour du dhikrullah, autour de la lecture du Coran, de bonnes paroles, le fait de rendre visite à ses parents, aux personnes malades, de venir en aide à ceux qui ont besoin d'aide, d'aumône. Il faut faire en sorte que, subhanallah, dans 24 heures, on puisse cumuler un maximum de bonnes actions et faire en sorte qu'il y ait le moins de péché possible. J'allais dire qu'il n'y ait pas de péché, mais c'est chose quasiment impossible. Mais faire en sorte qu'il y en ait le moins possible dans notre vie. Et au cas où, si, dans une journée de 24 heures, et au cas où si je me rends compte que j'ai commis, on va dire, j'ai accompli un péché, immédiatement demander taouba. Hein, le but, c'est de se coucher tous les soirs avec un livret de compte de mardi, de mercredi, où il n'y a pas le moindre péché. Et demander pardon pour les éventuels péchés, ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salat wa salam demandait au minimum 70 fois et dans certaines versions 100 fois istighfar à son Seigneur chaque jour. Et ce n'est pas pour rien également si le prophète alayhi salat wa salam passait de longues nuits en ibadah pour montrer sa reconnaissance envers Allah azza wa jalla. Voilà donc Nabiyullah, voilà donc la sunna. Nous, on aime d'autres aspects de la sunna, d'accord ? On aime la sunna qui est visible, la sunna qui est palpable, la sunna de la façon de manger, de la façon de dormir, tout ça, c'est très bien. Mais la sunna, c'est également cette humilité, cette reconnaissance envers Allah pour le bienfait de la foi, de la guider. C'était là le mode de vie de notre prophète, alayhi salat wa salam. Le troisième texte est intéressant, le hadith de Aïcha radiallahu anha, de lequel il y a quelque chose en plus, où il est stipulé qu'avant de mourir, Allah azza wa jal envoie pour un serviteur qu'il aime un ange qui va l'aider à se mettre vers le droit chemin, qui va lui montrer, c'est celui qui guide, c'est Allah, mais on va dire que cet ange est un intermédiaire pour que la personne prenne toujours le bon chemin, le droit chemin, et accomplisse le maximum de bonnes actions. C'est pour ça qu'il est stipulé que les actions les plus importantes, ce sont les actions qui sont accomplies dans les derniers instants, dans les derniers moments de la vie. Et dans certains textes, il est mentionné que l'homme est ressuscité, donc le jour de Qiyama, dans la même situation où elle est décédée. C'est-à-dire que si quelqu'un est mort dans, mashallah, husnul khatima, en accomplissant de bonnes actions, en priant, en lisant le Coran, dans cet texte, et donc stipulé que la personne soit ressuscitée avec une situation approximative, une situation qui se rapproche de ses bonnes œuvres. Et puis, par déduction, on peut comprendre que si quelqu'un meurt dans les péchés qu'Allah protège, quel risque il y a pour que la personne soit ressuscitée avec les péchés qu'Allah nous protège. Et pour parler justement, on a parlé de su'ul khatima, certains savants, As-Suyuti rahimahullah, expliquent que les savants disent que les péchés, et ça c'est important parce que notre rapport avec le mal, avec le péché, très souvent, ça se limite à la culpabilité. Ça se limite à la culpabilité. Je me dis que si j'accomplis tel péché, voilà, j'ai désobéi à Allah et c'est mal et je demande pardon. Certes, éprouver al-haya min Allah, la honte d'avoir désobéi à Allah azza wa jalla, c'est vraiment une réaction très noble. C'est une réaction extrêmement noble. C'est une preuve de présence, de foi, de iman, mashallah. Mais au-delà de ça, allez, même si tu as accompli le péché et ensuite la personne a demandé tawba sincèrement, Allah azza wa jalla va t'accorder son pardon. Mais vous savez, ikhwan et ikhawat fillah, des fois les péchés ont d'autres conséquences. Et on avait vu mardi dernier, il me semble, que par exemple la jalousie fait partie des péchés qui annulent les bonnes actions. C'est-à-dire que certains péchés qui se sont installés dans notre vie, le risque n'est pas uniquement d'avoir des points noirs sur le cœur ou un poids dans la balance, dans les livrets des actions, dans les livrets des mauvaises actions. Ce n'est pas uniquement ça, même si c'est déjà beaucoup. Le risque, et ça c'est vraiment la pire des choses, c'est que ce péché fasse de nous un pécheur endurci, et que par rapport à ce cumul de péchés précis, l'homme meurt avec sous le khatima, d'une mauvaise mort, de la pire des façons, mourir dans la désobéissance envers Allah Azza wa Jal. Et donc les savants énumèrent trois péchés qui sont extrêmement graves et qui peuvent causer justement le sous le khatima, at-tahawunu bis-salah. Le fait que le croyant ne donne pas suffisamment d'importance à la salah. Et quand on dit ne pas donner suffisamment d'importance, la bonne traduction serait de dire de ne pas faire de la salah l'objectif principal. C'est-à-dire que le mu'min, dans Subhanallah, pour lui, la salah, c'est la priorité. Qu'il soit en voyage, quelle que soit la situation, en bonne santé ou autre, la personne, son premier souci et ce qui doit le préoccuper en regardant les heures défilées passées, c'est sa salah. Maintenant, celui qui est rafil, qui fait preuve d'insouciance dans les prières, il y a des personnes qui, malheureusement, par rapport à leur situation professionnelle, ils se disent qu'on n'a pas le choix, donc on va cumuler les prières, arriver à la maison le soir, quand je rentre du bureau, je vais faire la salah de Dhuhr, de Asr, de Maghrib. Mais ce n'est pas une situation qui peut perdurer. Ça arrive une fois, c'est accidentel. Pour d'autres personnes, c'est pas pour nous. Il faut faire très attention, c'est un fléau qui malheureusement est de plus en plus présent dans la communauté, au sein des croyants, parfois même des familles religieuses, où des gens finissent par sombrer dans l'alcool. Et justement, la personne qui sombre dans l'alcool, très souvent, c'est suite à Ibtila, suite à des épreuves. Tout comme certains vont faire une dépression nerveuse ou ainsi de suite par rapport à des épreuves, ou d'autres vont même essayer de mettre fin à leur jour par rapport à une épreuve. Tout ça, c'est à partir du moment où le mu'min n'a pas cette opinion, cette bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, et la personne ne... Je ne dis pas que la personne qui fait une dépression, c'est quelqu'un qui est faible. A'oudhu billah. Allah seul sait la douleur et la tristesse, la frustration et le mal d'être que peut ressentir quelqu'un qui est en dépression. Qu'Allah accorde la santé à toutes les personnes qui souffrent de ces problèmes psychologiques et qu'Allah nous protège. Mais je veux dire que quand Allah voit une épreuve, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'éprouve jamais, ça peut découler du verset, qu'Allah n'impose jamais quelque chose qui est au-dessus de notre potentiel. C'est-à-dire que quand une épreuve descend, quand nous sommes éprouvés par une situation difficile donc de la vie, c'est qu'Allah, Rabbul Izzah, sait pertinemment, et Allah est alimun bi dhati s-sudur, sait ce qu'il y a dans les poitrines, et latifun bi ibadi, bienveillant envers ses serviteurs, Allah sait que cette personne a largement la possibilité de répondre présent dans cette situation d'épreuve et de développer les qualités intérieures et spirituelles pour se dépasser et développer la belle, le sabrun jamil, et s'en remettre à lui et trouver les bénéfices de cette épreuve. Ainsi donc, la personne qui arrive à, on va dire, une situation extrême, c'est parfois une personne qui n'a pas su développer le potentiel spirituel qu'il y avait en lui, ou peut-être que la personne n'était pas bien entourée. Il n'y avait pas les personnes pour lui rappeler les textes concernant les épreuves, et qui fait que, Allah musta'an, la personne peut sombrer vers ses réactions. Également, troisième péché qui peut faire glisser le serviteur qui peut provoquer une mauvaise mort, c'est un uququl walidain. C'est quoi uququl walidain, Abdul Malik? Merci. La désobéissance. Mais uquq, ce n'est pas uniquement la désobéissance, parce que une personne peut être un enfant, il n'y a pas de limite d'âge pour être enfant. On peut être obéissant, mais absent. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis absent, je ne désobéis pas non plus, d'accord? Non, le uquq al-walidain, c'est le fait de ne pas donner les droits aux parents. Présence physique, attention, de donner de l'attention, je veux dire, Le respect, bien sûr, ça, ce n'est pas discutable. Le venir en aide, les épauler, les soutenir psychologiquement, financièrement, même des fois, faire doua pour eux, et ainsi de suite. Donc la désobéissance, si on peut résumer par la désobéissance envers les parents, ça fait partie justement des péchés qui peuvent provoquer le sou ou le khatima, une mauvaise mort. Et ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salat wa sallam dit un hadith, et pour moi c'est un des hadiths les plus effrayants, si je ne me trompe pas, c'est rapporté par Tirmidhi ou An-Nasa'i, un des deux, de lequel le prophète alayhi salat wa sallam dit que la yadkhulul jannata 'aq, que celui qui a désobéi à ses parents durant toute sa vie n'accède pas au Jannah. C'est quand même grave, ça. C'est quand même très lourd d'entendre ça. Et les savants disent que cette personne qui a vécu, même si elle a vécu dans l'obéissance, on va dire, aux ordres d'Allah, mais obéissance, on va dire, apparente, hein, elle a fait ses prières, elle a fait le hajj et tout, mais à partir du moment où la personne a désobéi à ses parents, il y a un manquement de ses relations avec ses parents, cette personne risque de mourir, justement, commentait les savants, je reprends, que n'accède pas au paradis. De quelle façon? C'est parce que avant de mourir, Allah peut prédestiner pour cette personne une mort qui est une mort ingrate, une mauvaise mort qui fait que la personne n'accède pas au Jannah, qu'Allah nous protège. Des fois, on se laisse avoir par Shaitan, hein, qui nous persuade que du moment que je suis présent à la mosquée au premier rang et que je lis le Coran et que je le mémorise même, et après le reste, c'est pas grave, hein, c'est pas important. Non, l'obéissance envers les parents, ça vient immédiatement après le Tawhid. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et quantité de versets où, juste après le Tawhid, l'unicité d'Allah, il y a l'obéissance envers les parents. Donc, la désobéissance est un péché extrêmement grave qui peut avoir comme conséquence sous le khatima. Et enfin, wa adhal muslimin, le fait de causer du tort à son prochain. Alors, le simple fait de connaître qu'il y a un hadith qui s'appelle hadith al-muflis, hadith de la personne démunie, nous permet déjà de comprendre que celui qui a fait du tort aux gens de ce monde, même si elle a cumulé des bonnes actions, ce tort causé aux gens peut l'empêcher d'entrer au paradis. Donc par analogie, le tort causé aux gens peut nous empêcher d'avoir une bonne mort. Le hadith de la personne démunie, le hadith al-muflis, c'est le hadith très connu où la personne se présentera devant le tribunal d'Allah avec des prières, avec énormément de bonnes actions, mais la personne a fait la médisance, a semer la discorde au sein d'un couple, au sein d'une famille, à humilier une personne, l'a insulté, ainsi de suite, c'est-à-dire a fait du tort à des personnes de ce monde. Ces personnes, le jour de Qiyama, ce qu'on appelle les mazloum, les opprimés, viendront réclamer leurs droits auprès d'Allah, et cette personne se verra démunie de ses bonnes œuvres et il devra à un moment donné porter les péchés des personnes qu'il a opprimées dans ce dunya. Donc c'est un hadith connu qui nous permet de comprendre que le fait de causer du tort aux gens peut nous empêcher d'accéder au Jannah. Donc, je répète par analogie, on peut comprendre aussi que le mal qu'on fait aux gens peut nous empêcher d'avoir husnul khatima, une bonne mort, mais au contraire, causer une mauvaise mort. Qu'Allah Rabbul Izzah nous protège de ces quatre péchés qu'on a cités et de l'ensemble des péchés. Qu'Allah nous protège d'accomplir de notre vie des actions qui vont provoquer sa colère et qui vont nous éloigner de son acceptation et de sa rahma. Et que bien au contraire, qu'Allah guide nos cœurs pour nous permettre d'accomplir yom ba'da yom, jour après jour, des bonnes œuvres et des œuvres qui seront agréées et acceptées par Allah. Et chaque bonne action, chaque jour passé dans les bonnes actions, c'est comme si qu'on rajoute une pierre, hein, une pierre à notre sirat mustaqim, à notre chemin, à notre droit chemin, et qui nous permet d'avancer jusqu'au moment où l'ange de la mort reprend notre âme et que nous avancions vers le droit chemin. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. On a fait, Inch'Allah, à peu près 35 ou 40 minutes. Donc, ce qu'on a vu ce soir, c'est que la maladie, la vieillesse, le fait de perdre un peu de ses facultés fait partie des signes annonciateurs de la mort. Donc, ne pas avoir un extrême non plus de n'importe quel problème de santé, on se dit qu'on va mourir, on fonce vers des traitements, non, ne pas être hypochondriaque, mais en même temps, comprendre que la maladie, ça fait partie des signes possibles et probables de la mort, c'est-à-dire avoir toujours le cœur éveillé, ne jamais laisser ce cœur s'endormir, baigner dans la rafla. Même si je suis assidu à des bonnes actions et je m'éloigne du haram, mais si je me complais dans ma zone de confort et j'oublie la mort ne serait-ce qu'un jour, c'est peut-être que mon cœur est rafil, mon cœur est rempli d'insouciance et ça, ce n'est pas compatible avec la foi du mu'min. Parce que le mu'min, bien au contraire, attend le moment où il pourra rencontrer Allah Azza wa Jal. Et on a vu les trois textes qui rappellent que lorsqu'Allah veut du bien pour une personne, Allah guide ses pas et lui donne la possibilité avant de mourir d'accomplir une quantité de bonnes actions afin que la personne quitte ce dunya avec énormément de bonnes actions cumulées dans son livret. Qu'Allah nous accepte et nous accorde cette possibilité de cumuler des bonnes œuvres dès maintenant et avec istiqama jusqu'à la mort. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين